les histoires d'amour finissent mal en général, il n'est pas rare que les histoires d'héritage, elles, commencent mal, carrément dès le début. En février dernier, les fans encore éplorés de Johnny Hallyday découvraient avec stupeur, 2 mois après la disparition de leur idole, que sa famille commençait à s'entre-déchirer autour de son héritage. Une situation à laquelle pouvaient s'identifier de nombreux Français, pas seulement parce qu'ils suivent depuis des décennies et par médias interposés la vie du clan Hallyday, mais parce qu'elle ne concerne pas seulement les gens riches et célèbres. Nous sommes nombreux à avoir assisté à des querelles dans nos familles ou notre entourage, provoquées par ces questions d'héritage. Il arrive même qu'elles soient à l'origine de faits divers sanglants. L'assassinat l'an dernier des membres de la famille Troadec par le beau-frère des parents en est un exemple. Sans aller, fort heureusement, jusqu'à ce type de tragédie, la question de l'héritage est parfois au cœur des dissensions et de longues procédures. Pourtant, la loi française organise assez bien la répartition d'une succession en favorisant les héritiers, que sont les enfants et les conjoints. Mais en conséquence, toute modification singulière peut créer la polémique, car la notion de famille en France est forte et comprend généralement les personnes et les biens, à la différence d'autres pays. Et l'héritage est souvent perçu comme le moyen d'assurer le lien entre les générations. Sauf que cette perception est confrontée à l'évolution même de la structure familiale, une structure qui change, qui se complexifie avec les séparations, les recompositions. En outre, l'héritage est devenu l'un des principaux facteurs d'inégalité sociale dans notre société. 20% des revenus des ménages français sont maintenant liés à l'héritage, contre 8% en 1985. À entendre certains experts, il constituerait même un frein pour le développement économique. Alors, faut-il revoir les modalités de transmission du patrimoine et des biens? Et peut-on même envisager carrément une abolition de l'héritage pour une meilleure justice sociale? C'est ce dont nous allons discuter pendant cette heure.
Le débat de midi. Didier Siamour sur France Inter.
Et pour en parler avec nous, sont présents aujourd'hui d'abord en duplex Christine Ulivecci. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct depuis Montpellier. Merci d'ailleurs à l'équipe de France Bleu Héros. Vous êtes psychothérapeute, spécialiste de l'analyse transgénérationnelle, auteur de Psychogénéalogie des lieux de vie, qui est paru chez Payot. Avec nous en studio, ici à Paris, Pierre Lemay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notaire à Pont-l'Évêque et rédacteur en chef de la revue Conseil des notaires. Et puis également Emmanuel Pierrat, bonjour.
Bonjour Didier Siamour.
Vous êtes avocat, spécialiste de la propriété intellectuelle et auteur de 2 livres, Famille, je vouais, Les héritiers d'auteurs, édité par Obeke. Et vous publiez en octobre Dernière volonté aux éditions de La Martinière, c'est bien ça?
Bien ça.
Alors, une petite question à chacun d'entre vous pour commencer. Avez-vous, à titre personnel, vous êtes-vous retrouvé dans une situation d'héritier ou avez-vous reçu une donation? Et est-ce que tout ça s'est bien passé dans votre famille, Christine Ulivecci?
Bon, je ne vais pas en dire grand-chose, mais bien sûr, j'ai été déjà confrontée à ce type de situation. Et comme dans de nombreuses familles, les moments de succession dévoilent les dysfonctionnements familiaux.
Pierre Lemay, vous qui recevez beaucoup de familles pour régler, est-ce que vous-même vous avez été confronté à ce genre de situation?
Alors moi, je suis fils de notaire, j'ai été confronté à cette situation. Je peux vous dire que tout était bien préparé, tout a été discuté avant
et tout votre a été fait. Votre père avait fait ça consciencieusement.
Consciencieusement, il a fait en sorte que ma mère, qui est toujours vivante, et c'est ce qu'il lui faut, et nous attendrons donc ensuite le décès de notre maman.
Emmanuel Pierrat.
Même situation que notre cher maître. Mon père est mort il y a 3 ans. Tout est en ordre, je crois, à peu près. Tout était bien organisé. J'ai juste pas respecté ses volontés parce que c'était assez compliqué. Il n'y avait pas de décorum, il n'y avait aucune prise de parole. Et ça, c'était le seul côté violent, on va dire, du testament. Côté de ça, moi, je suis exécuteur testamentaire. C'est-à-dire que j'ai été désigné par des écrivains pour gérer leur œuvre après leur décès. C'est une fonction un peu particulière, mais qui existe dans le code civil. Et puis, à côté de ça, j'ai rédigé mon testament, parce que je suis un homme de droit, un homme de loi, et que je sais qu'il vaut mieux s'en remettre à ses propres volontés, entre guillemets, que de faire laisser uniquement le droit se mettre en œuvre.
Je pense qu'on va en reparler. Vous faites partie des 10% seulement de la population qui fait un testament, 90%, se reposant sur le droit en général.
Absolument, le code civil est assez bien fait pour s'y reposer.
Ok.
Je prends les meubles du salon.
Et moi, je prends l'argenterie.
Et moi, le fils, c'est moi qui décide. Alors, nous, on prend tous les tableaux et la bagnole, vous le reste, vous démerdez.
Chérie, les bagouses. Je veux les bagouses.
Le monde, il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde, il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi ça sert? Si c'est même pas pour leur montrer. Et puis à quoi bon? T'es tellement seule derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens. Mais tu les laisses tous indifférents. Oh, je devrais m'éloigner. Loin du game, loin du danger. Mais j'avoue, j'aime bien jouer. Si c'est de moi dont on va parler. Ou j'oublie tout et je m'en vais. Yeah. Moi, je m'en vais marcher. Naïve comme jamais. Loin des regards armés. À quoi bon? T'es tellement seule. À ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Et puis à quoi bon? T'es tellement seule avec ton argent. Tu sais même pas pourquoi t'es tout le temps avec des miches de sans sentiments. Au fond, j'avoue que même moi, je fais partie de ces gens-là. Rassurée quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Et seulement ça, ça les fait bander.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger.
Tout le monde il veut seulement la fame.
Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens.
C'était La Thune par Angèle, une des révélations de l'année dont le premier album est attendu pour octobre prochain. Le titre a été choisi par Elsa Béranger qui est en charge de la programmation musicale de l'émission. Celle-ci est réalisée par Stéphane Ronxin, assistée à la technique de Raphaël Rousseau et Maxime Ingrand, et elle a été préparée par Fanny Cohen-Moreau et Aurore Mansip.
Les Français sont désormais pris à témoin d'une querelle familiale, une bataille juridique autour de l'héritage du chanteur, les accusations d'une fille, les regrets d'une veuve.
On ne peut pas déshériter ses enfants, c'est tout ce que je pense.
Si Johnny a décidé de ne rien donner à ses deux enfants aînés et qu'il a estimé qu'ils ont eu pendant toute leur enfance et même leur vie d'adulte ce qu'il fallait, et après pour protéger les deux petites, je pense qu'il a fait juste.
Et je pense que c'est normal que les enfants, Laura et David, puissent quand même avoir quelque chose de leur père, un objet, n'importe quoi.
C'est surtout les droits moraux. L'argent, je pense, c'est secondaire. Mais je conçois que des enfants aient envie de surveiller ce que l'on fait de l'image de leur père.
Après, qui a tort, qui a raison, mais je trouve que c'est pas très bien de déshériter ses enfants.
C'est une histoire de famille qui leur appartient. Mais je pense que on peut pas demander aux Français de pleurer quelqu'un et on peut pas demander des funérailles nationales et ensuite se réfugier derrière la loi californienne. Il faut choisir son pays. Donc je pense que c'est entre les mains des juges aujourd'hui. Mais tout ce que je peux dire à Laura et David, c'est qu'ils ont été aimés et qu'il faut pas qu'ils en doutent.
La bataille entre Laura et Laetitia Hallyday ne fait que commencer autour d'un patrimoine estimé à une centaine de millions d'euros, sans compter l'exploitation de l'œuvre de l'icône, un cas de figure qui en rappelle d'autres. Picasso, Maurice Jarre, Bettencourt, des grandes successions qui se règlent au grand jour devant les tribunaux.
Alors, on va pas revenir détailler complètement cette affaire qui, il y a 6 mois, a occupé la une de l'actualité. Je rappelle juste que Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday, contestait sur la place publique un testament qui les déshéritait, elle et son frère, au profit de la dernière épouse du chanteur et de leurs 2 plus jeunes enfants. Un déballage qui augurait une longue procédure judiciaire, qui venait loin d'être achevée, et mais qui surtout soulignait les conflits potentiels inhérents aux questions d'héritage. Alors, première question que je pose à nos invités, Pierre Lemay, vous êtes notaire, est-ce que les histoires d'héritage, comme je disais avec ironie au début de l'émission, commencent mal en général ?
Non, en général ça se passe plutôt bien. Si je fais une statistique de mon activité personnelle, je n'ai pas un 0,5% de conflits avérés lors du règlement de succession. Successions qui partent devant les tribunaux, c'est rare, mais c'est une comment dirais-je, mais c'est une information, c'est une activité, c'est quelque chose qui fait réagir les gens parce que on parle gros sous. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien.
0,5%.
Oh, dites. À peine, oui.
Donc ouais. Un dossier sur 200.
Oui.
D'accord. Alors, Emmanuel Pierrat, vous qui êtes avocat et spécialisé dans la propriété intellectuelle, donc vous travaillez avec beaucoup d'auteurs, de créateurs, est-ce que il y a plus dans ce secteur-là, est-ce qu'il y a des dossiers plus compliqués et plus de polémiques ?
Il y a plus de polémiques, évidemment, parce que d'abord, le public se sent héritier, comme dans l'affaire Johnny. Également, c'est-à-dire que nous sommes tous, qu'on ait aimé ou non Johnny Hallyday, qu'on ait adoré ou non ses chansons, ça fait partie de notre patrimoine commun, notre patrimoine culturel commun. Donc on a tous réagi en y projetant ses propres ennuis, ses propres familles, son propre testament, ses problèmes intergénérationnels avec nos enfants, nos frères ou nos demi-frères nés d'un autre lit ou quoi que ce soit. Donc c'est une famille très moderne, Johnny Hallyday. C'est des remariages, des enfants d'un premier lit, des enfants d'autres lits, d'un deuxième lit, des enfants adoptés, qui sont des enfants à part entière, évidemment, et donc, évidemment, des questions qui sont très en actualité avec ce que la société française révèle en 2018. Se rajoute à ça, donc, le fait que chacun s'est senti concerné pour juger si Johnny Hallyday pouvait ou non. Chacun se sent concerné, on l'a entendu dans votre sujet, sur le sort du droit moral, est-ce que vous ou non. Et puis, évidemment, en plus, se rajoutent des complications qui, d'après moi, sont liées aux personnalités propres des enfants. Laura et David Hallyday exercent des métiers qui sont proches de ceux de leur père. Il y en a un qui est chanteur. On est directement dans l'héritage. Alors là, la transmission de la même profession et la tentative de rivaliser avec son père. Et puis Laura Smet, actrice, Johnny Hallyday, a aussi tourné. Donc il y a des choses qui compliquent et qui rajoutent. Les successions sont très compliquées, évidemment, quand elles concernent des artistes, des auteurs, quand elles concernent aussi des immenses fortunes. Et évidemment, il y a plus à s'engueuler, entre guillemets, ou à partir au tribunal. Mais ceci dit, on est capable de partir en litige pour 2 petites cuillères qui sont exactement semblables. Et il faut décider qui prend celle de droite et qui prend celle de gauche. Elles se ressemblent absolument. Le premier qui fait un geste vers celle de droite, l'autre dit « Mais pourquoi est-ce qu'il l'a pris celle-ci ? C'est celle que je voulais.
Voilà. » Alors, on va faire réagir. Christine Olivucci, vous êtes psychothérapeute, spécialiste de l'analyse transgénérationnelle. Comment expliquer justement ce que vient de raconter Emmanuel Pierrat, pour 2 petites cuillères, on peut se déchirer.
Oui, alors moi, c'est plutôt ça que je vois. Et d'ailleurs, bon, j'étais un petit peu étonnée d'entendre qu'il y a très peu de conflits, parce que ce n'est pas du tout mon sentiment. Et mon notaire parisien me dira, par exemple, venez voir un peu dans mon cabinet, ça vous donnera de la matière supplémentaire. Par rapport à cette question de la transmission, que ce soit dans les successions ou dans les donations, il s'agit bien évidemment d'accorder une place dans la lignée, c'est-à-dire de reconnaître sa descendance. Donc, toute transmission de biens matériels va renvoyer à une valeur à la fois monnayable, mais surtout symbolique. Donc, même s'il n'y a pas de revendication devant la loi par rapport à des spoliations, c'est très courant de se sentir en effet spolié, parce que c'est vraiment la question de la reconnaissance parentale qui se rejoue. C'est-à-dire que toute la fratrie, on va parler évidemment de la succession par rapport aux parents, la fratrie se retrouve à nouveau, on va dire, confrontée à ce qui lui a été transmis, à l'amour parental, qui est calculé en fonction de la valeur symbolique. Alors ça peut être d'une petite cuillère ou autre. Donc tout ce qui n'a pas été réglé jusqu'alors, tout ce qui a été un petit peu masqué,
ressurgit.
Ressurgit et explose. C'est bien connu, ça explose à ce moment-là.
Emmanuel Pierrat, vous vouliez réagir?
Oui, moi j'ai plutôt tendance à pencher vers des pourcentages plus élevés que 0,51%. Je pourrais très bien comprendre Pierre Lemay qui dit 1% ou moins d'1% devant les tribunaux, mais moi j'avais comme idée que c'était 25% des successions qui se passaient mal, c'est-à-dire qui où les gens ont une rancœur, vont s'engueuler, vont se fâcher pour le reste de leur vie, n'étant plus jugés par leurs parents, éventuellement, dont la succession est en jeu. Moi, je vois défiler à mon cabinet un pourcentage non négligeable, quand même, de gens qui, sans saisir nécessairement les tribunaux, pensent qu'il faut batailler et que les choses ne se sont pas bien passées ou ne se passent pas normalement. Les conflits peuvent porter sur plein de choses, sur la répartition, effectivement, le partage qui doit être fait à l'intérieur d'un appartement, d'une maison, entre des meubles, des choses très simples. Ça peut porter, effectivement, sur la façon dont l'un ou l'autre a la sensation que son frère ou sa sœur est privilégié, sur le fait que des étrangers, entre guillemets, à la famille, d'un seul coup, sont désignés dans le testament, sur le fait, en l'occurrence, moi, pour les artistes et les auteurs dont je gère les successions, sur le fait qu'on désigne un disciple et non pas les enfants, qu'on considère comme inaptes éventuellement à gérer l'œuvre du père. Donc, voilà des choses, des sources de conflits qui me semblent relativement importantes.
Alors, pour être très clair pour les auditeurs, parce que là, on est parti de l'affaire Hallyday avec des enfants qui s'estiment déshérités. Pierre Lemay, vous êtes notaire. Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs en quelques mots comment s'organise, quel est le régime général de l'héritage en France? On parle, il y a un terme notamment, c'est la réserve héréditaire.
Oui, alors, la réserve héréditaire, c'est la part minimum que chaque enfant doit recevoir. Ou, quand il n'y a pas d'enfant, le conjoint doit recevoir. Et donc, c'est en fonction du nombre d'enfants. Lorsqu'il y a un enfant, il doit avoir au minimum la moitié de la succession. Deux enfants, ils doivent avoir chacun un tiers. Et quand il y a trois enfants et plus, ils se partagent les trois quarts. Et la différence, c'est ce qu'on peut laisser à qui l'on veut, à quelqu'un
d'autre. Donc ça, ça veut dire que c'est la part minimum. Donc ça veut dire qu'en France, on n'a pas le droit de déshériter ses enfants ou son conjoint.
Absolument, il y a une limite qui est prévue par les textes, et ça remonte d'ailleurs à très loin, puisque c'est la nuit du 4 août, avec l'abolition des privilèges, où on a instauré l'égalité, qui disait égalité, disait également transmission aux enfants. On a supprimé le droit d'aînesse, et tous les enfants devaient hériter.
Alors, est-ce que cette situation vous paraît aujourd'hui, je pose la question à tout le monde, mais est-ce que ce régime qui était présenté comme quelque chose de très égalitaire, puisqu'avant il y avait le droit d'aînesse notamment, c'était l'aîné qui raflait la mise, on dira, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut, par rapport à ces schémas de famille qui sont beaucoup plus complexes, est-ce que ça veut dire que ce schéma est vraiment adapté?
C'est adapté. Là, je vais un peu contredire ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, je vois les dossiers où ça se passe bien. Et je vois aussi des dossiers où ça se passe moins bien. Et je peux vous assurer que dans la grande majorité des cas, ça se passe très bien. Pourquoi ? Parce que les gens ont intégré cette règle d'égalité où chacun doit recevoir sa part. Alors quelquefois, la difficulté, c'est de savoir quel est le montant effectif de la part quand il y a eu des avantages qui ont pu être faits par le défunt de son vivant. Mais le plus souvent, encore une fois, ces règles-là sont parfaitement admises, et le fait de pouvoir quand même léguer à qui l'on veut une part de ses biens est une sorte de soupape de sécurité. Il n'est pas anormal que face à des enfants, l'un bien réussi, l'autre a moins bien réussi, on souhaite aider un peu plus celui qui n'a pas très bien réussi.
Emmanuel Pierrat, est-ce que vous estimez aujourd'hui que ce régime général est bien adapté aux situations de la société contemporaine?
Il a évolué parce qu'on a changé en partie les textes. Il y a peut-être un demi-siècle, entre guillemets, les dates précises, je ne vais pas les donner, mais on considérait que les enfants qui étaient nés hors mariage n'avaient pas les mêmes droits, le même statut, la même égalité. Aujourd'hui, toutes ces choses sont passées. C'est-à-dire que les enfants, qu'ils soient nés ou non dans le cadre du mariage, qu'ils soient nés dans le concubinage, qu'ils aient été adultérins, comme on disait autrefois, ou adoptés, ou peu importe, sont à part égale. Et ça, c'est déjà très bien. C'est-à-dire que la société française, le droit français, a adopté quand même des concepts de famille moderne, de la même façon qu'on a le mariage pour tous depuis quelques années, qui est une très bonne chose, qui permet, en l'ordre de la reconnaissance des droits et de l'égalité des couples du même sexe, aussi de faire bénéficier quelqu'un qui a vécu avec quelqu'un du même sexe toute sa vie des droits à l'héritage qui existaient déjà au profit des familles hétérosexuelles. Donc le droit a pris en compte, le droit français aujourd'hui, en 2018, a pris en compte l'évolution de la société en grande partie. Et c'est une très bonne chose. Si on était resté sur la même chose, sur le même texte, sans évoluer et prendre en compte les nouvelles familles, il y aurait un problème. Il reste des marges, hein. Il reste des endroits où il y a des choses compliquées. Le statut des beaux-enfants, par exemple. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand vous élevez les enfants de votre compagnon ou de votre compagne, qui sont nés d'un premier lit, que vous passez toute votre vie et vous les éduquez depuis le petit âge jusqu'à la fin de leurs études, et que quand vous devez leur laisser quelque chose, ça n'est pas égalitaire et c'est taxé différemment de si vous le laissez à vos propres enfants, ceux qui sont légitimement reconnus, entre guillemets, inscrits comme vos enfants dans le droit, il y a quelque chose qui là peut-être est à revoir, qu'il faudra sans doute à un moment ou à un autre penser. Il y a des choses comme ça, on va dire, c'est pas à la marge, parce que ça concerne quand même beaucoup de familles. Qu'il faille, aujourd'hui, par exemple, moi j'ai en ce moment un cas d'une famille qui, où le père va adopter les enfants de sa compagne, pour pouvoir, enfin de son épouse, pour pouvoir les intégrer et qu'ils héritent de façon égalitaire avec ses propres enfants. Mais ça veut dire qu'on est obligé d'en passer par des montages, par des testaments, par des procédures qui sont peut-être un petit peu surannées par rapport à ce que vivent aujourd'hui nos concitoyens, ce que nous vivons.
Christine Ulivucci, vous qui donc êtes spécialiste de l'analyse transgénérationnelle, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que ces familles, ces nouveaux schémas de famille qu'on connaît dans notre société moderne, est-ce que vous avez l'impression que ils sont, enfin que la loi est bien adaptée?
Alors bon, je parlerai pas de la loi que je ne connais pas spécifiquement là aujourd'hui. Néanmoins, la question des montages, oui, j'en entends beaucoup parler. Le montage par rapport aux familles recomposées, par rapport à quelque chose où on essaie d'adapter au mieux pour la plus grande équité. Maintenant,
mais dans les gens que vous recevez, par exemple, que vous voyez en cabinet, est-ce que vous avez l'impression qu'ils acceptent aujourd'hui ce régime général dont on parlait avec la réserve héréditaire qui fait que chacun est reconnu?
Alors, bon, moi, les personnes que je reçois en cabinet ne sont pas là pour me parler du régime général. La question de la transmission, de la passation des biens vient uniquement révéler ce qu'il en est des transmissions des mémoires familiales, du lien à l'origine, de la reconnaissance. Voilà, donc on n'est pas là pour parler de ça. Maintenant, ce qui est clair, c'est que chacun... on va dire, qui vient élaborer certains liens avec sa famille, va parler de la question de la donation et de l'héritage, qui est, on va dire, un point tangible sur lequel travailler. Et la question va être, pour eux, c'est un petit peu comme la phrase, enfin la citation de Goethe qui a été reprise par Freud, « Ce que tu as hérité de tes pères, acquiers-le pour le posséder », c'est-à-dire que peu importe ce que l'on va hériter, il va falloir se l'approprier, que ce soit le manque ou le trop-plein, que ce soit la spoliation ou la place du privilégié.
Et est-ce que
donc
par
c'est
rapport...
plutôt ce travail-là qui va être fait.
Au-delà de la valeur financière, est-ce que vous avez l'impression que le fait, de la perspective de pouvoir être déshérité va être vécu comme un rejet de la filiation?
Ah oui, ah bah clairement, oui. Et la perspective d'être déshérité va agir aussi, enfin agit aussi comme un signe d'emprise familiale, c'est-à-dire de mainmise sur sa descendance. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une dépendance à sa famille de peur d'être déshérité.
Emmanuel Pierre, vous
voulez réagir. Il y a une question de sémantique très française sur le fait de déshériter. En droit américain, on ne dit pas qu'on déshérite les gens. On désigne une fondation, on choisit ses héritiers. Nous, on a une conception très franco-française, avec un vocabulaire très fort qui donne l'impression qu'on fait un acte très négatif et qu'on prive quelqu'un de quelque chose, mais qui est lié à notre tradition, à nos textes, à notre culture. Je ne suis pas persuadé que les Américains d'aujourd'hui, alors Johnny Hallyday est un cas particulier, mais aient la sensation qu'ils déshéritent leurs enfants. Il y a l'histoire aussi de la culture de la méritocratie, il faut se construire, il y a beaucoup de choses. Non, il y a une chose aussi qu'il faut rajouter quand même peut-être qui a changé la façon dont notre rapport à l'héritage, et alors que les textes n'ont pas changé, comme vous le rappeliez, sur la réserve héréditaire, sur les héritiers réservataires, c'est simplement que nos parents vivent beaucoup plus longtemps et que nous héritons aujourd'hui à un âge où nous n'en avons plus besoin.
C'est autour de 50 ans aujourd'hui, et en préparant l'émission, je voyais que pour 2050, on prévoyait que l'âge moyen de l'héritage, ce serait 58 ans. Donc ça veut dire quand on arrive à la fin de sa vie professionnelle, où socialement on espère être à peu près installé. Pierre Lemay.
Oui, j'ai beaucoup d'héritiers qui sont eux-mêmes déjà retraités. Et parfois, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont fait leur vie, ils ont leur bien. Et parfois, ils renoncent eux-mêmes à la succession de leurs parents pour en faire bénéficier leurs propres enfants. On peut sauter une génération, si on le souhaite, plutôt que d'hériter pour redonner à ses propres enfants. Il y a des avantages fiscaux à faire ce genre d'opération. Et puis, il y a aussi le fait d'aider sa famille. C'est quelque chose d'important lorsque ça arrive.
Et est-ce qu'il y a d'autres moyens de transmettre que l'héritage aujourd'hui?
On peut le faire de son vivant. On préférera la donation partage où chacun a son lot, de manière à pas avoir à revenir dessus au moment du décès des parents. Ça peut être des sommes d'argent, où là aussi il y a quelques avantages fiscaux particuliers. Ça peut être toutes sortes de biens, ça peut être des actions, ça peut être des appartements. Enfin,
Il y a des manières de détourner aujourd'hui ce fameux système de la réserve héréditaire, notamment via les assurances vie.
Alors en France, oui, c'est vrai que les assurances vie aujourd'hui c'est plus des contrats de capitalisation qu'autre chose. Et la jurisprudence de la Cour de cassation dit que c'est hors succession, sauf des cas qui sont très difficiles à appliquer. Par contre, si vous regardez ce que dit la Cour de cassation belge, elle constate que il faut l'intégrer dans la réserve, puisque nous avons à peu près le même droit que nos cousins.
On parlait de Johnny Hallyday, un de ses titres phares revisités avec grâce par Camilla.
Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé, qu'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'ont ce pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix.
Fait pour tant de bien. Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire, tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, Il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement.
Le débat de midi sur France Inter.
Retour à notre débat sur l'héritage. Faut-il le faire évoluer? Doit-on, pourquoi pas, l'abolir? Une approche sans doute un peu provocatrice, mais qui avance de plus en plus dans les différents courants de pensée. Comme le soulignait dès 1784 Beaumarchais dans Le mariage de Figaro, dont on vient d'entendre un extrait, l'héritage ne favorise pas la méritocratie ni le travail. Dans notre société, l'héritage devient même un critère déterminant pour le niveau de vie, plus que les fruits du travail. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que l'héritage déjà doit évoluer avant d'être même peut-être aboli?
Tout peut évoluer, c'est évident. De là à l'abolir, ça me semble quand même aller un peu loin. Parce que c'est quoi transmettre? C'est transmettre des biens, la transmission des biens, c'est ça l'héritage. Mais on transmet pas que des biens, on transmet une vie, on transmet un travail, on transmet ce en quoi l'on croit. Et je pense que ça fait partie de la transmission totale. Quelle serait l'activité si jamais on ne pouvait pas transmettre? Pourquoi est-on sur cette terre? C'est pour transmettre à des générations futures. Alors, je crois qu'il y a un parti un peu égoïste qui consisterait à dire c'est pour moi, je consomme jusqu'à la fin, parce que de toute façon, je ne pourrais pas transmettre. Mais je ne pense pas que c'est une société qui irait très loin. Je vois dans les activités que le notariat peut avoir en Afrique, où on aide à faire des titres de propriété, ça va permettre aux petits paysans de pouvoir emprunter et puis de transmettre à sa famille. Et donc, je crois que la transmission du capital est quelque chose d'important, d'autant que le plus souvent, ce capital a déjà subi l'impôt. Vous avez l'impôt sur le revenu, vous avez l'impôt sur les héritages, vous avez l'impôt sur la détention des biens eux-mêmes. Donc, j'espère qu'on n'en arriverait pas là, parce que je pense que ce serait extrêmement contre-productif.
Alors, il n'y a pas que des révolutionnaires qui en parlent. Il y a déjà des économistes ultralibéraux. Et puis, il y a même dans un rapport publié l'an dernier par France Stratégie, qui est quand même un organisme de réflexion rattaché à Matignon, on ne peut pas dire qu'on soit dans un repère de gauchistes, comme on dirait. Eh bien, il préconisait de débattre de l'héritage et de sa fiscalité sous peine, je les cite, d'aboutir à une société d'héritiers. Emmanuel Pirat, est-ce que vous avez l'impression qu'on va vers une société d'héritiers aujourd'hui?
Nous sommes déjà dans une société d'héritiers, mais la France était déjà une société d'héritiers. Les chiffres sont plus les mêmes, effectivement, comme 1985, sur la part que ça peut représenter.
Donc, je disais aujourd'hui, à peu près 20% des revenus des ménages aujourd'hui proviendraient des héritages, et on parle de 30% pour les années qui viennent.
Oui, parce que aussi on meurt plus longtemps, on meurt plus moins tard. Pauvre. Encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la longévité, le fait que l'espérance de vie est beaucoup plus tard. Vous avez le temps de constituer un patrimoine, ce qui n'était pas le cas il y a 25 ou 30 ans, où vous mouriez plus tôt, plus jeune et moins bien nanti. Après, il y a deux idées. Il y a la vieille idée révolutionnaire que moi j'aime bien, quand même sur le papier, comme ça, qui est assez romantique du 18e siècle, la philosophie des Lumières selon laquelle il faut abolir tout héritage et tout remettre dans le pot commun. Elle est agréable intellectuellement. J'ai pas dit qu'elle était praticable et qu'elle était socialement facile à mettre en œuvre, mais c'est celle, vous évoquez Beaumarchais, c'est celle qu'on appliquait sur les droits d'auteur à la Révolution. On disait les œuvres appartiennent ensuite au domaine public. Il y a toujours cette formule. Et puis après, le législateur français a pensé que non, il fallait laisser un peu de temps pour le compagnon, la veuve en l'occurrence, à la fin du 18e siècle, pour se retourner. Puis les enfants, puis on a allongé. Et puis aujourd'hui, ça dure jusqu'à 70 ans après la mort des auteurs.
Et ça vous paraît justifié?
Non, parce que l'idée, c'était de faire vivre une génération pour le temps qu'elle trouve un métier qui ne pouvait pas être celui de poète ou grand écrivain ou grande musicienne comme était l'aïeul. Et aujourd'hui, c'est autre chose. Voilà, ça s'appelait les majorats littéraires chez Prudhon. L'idée selon laquelle l'héritage, comme la propriété, c'était du vol. Et puis, il y a l'autre idée, qui est celle de Macron, qu'il a abandonnée, celle du président
quand
Macron.
C'était
qui
était le candidat à l'époque.
Le candidat était... qui était de taxer très fortement les héritages riches, c'est-à-dire la succession dans laquelle il y avait de l'argent. Là, visiblement, le président actuel a l'air moins contre les riches qu'il ne l'était dans sa campagne. Ça, c'est un constat.
Je cite sa phrase de campagne, c'était « Si on a une préférence pour le risque face à la rente, ce qui est mon cas, il faut préférer la taxation sur la succession aux impôts de type ISF. » On a vu que l'ISF avait été allégé, en revanche, il n'y a pas eu de renforcement.
Mais on aurait pu penser, et c'est peut-être là que les choses peuvent se jouer, plutôt que de supprimer symboliquement l'héritage, on peut revoir peut-être peut-être les taux d'imposition, en tout cas pour les fortunes les plus élevées, hein. Des gens qui laissent effectivement une fortune telle qu'on se demande quel est le sens. Voilà, les Américains, encore une fois, sont un peu plus libres d'esprit, hein, et sont capables de dire, écoutez, voilà, je laisse 10 milliards, je considère que mes enfants auront besoin de, $1 million, et puis le reste, ça va à une fondation, à une œuvre de charité.
D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'appels qui avaient été faits, notamment par Warren Buffett, qui a incité les milliardaires à dire, donnez une grande partie de votre fortune à des fondations, faites des donations.
C'est ce que fait Bill Gates, qui a annoncé qu'il laissait à sa progéniture, je ne sais plus, une petite somme, un pourcentage très infime, et le reste part dans ce qu'on appellera la philanthropie. Alors, évidemment, il y a des avantages fiscaux, il y a plein de choses, il y a sa propre gloire, des bibliothèques qui vont être construites à son nom, comme Carnegie ou comme les grandes successions américaines. Et en même temps, c'est pas si mal. C'est une façon de reverser au bien commun. Alors, il vaut mieux faire des universités, sincèrement, que des rentiers. J'en suis convaincu.
Christine Olivucci, on parlait des héritiers, mais il y a aussi ceux qui transmettent, ceux qui donnent. Est-ce que ça a une importance? Est-ce que c'est important? Qu'est-ce qu'on donne à ses héritiers? Est-ce que, en même temps, on constitue pas, durant sa vie, un patrimoine pour justement pouvoir le transmettre?
Oui, moi, ça me semble essentiel ce qui était dit en premier, c'est-à-dire que cette question de la construction personnelle qui puisse se transmettre, c'est-à-dire que c'est ça qui donne aussi un sens à sa vie, c'est dans une forme de continuité, c'est-à-dire que on laisse à un moment la place à la génération suivante. On ne construit pas uniquement pour soi. Alors maintenant, on peut laisser la place, on peut transmettre de manière beaucoup plus large. Là, j'entendais parler de des grandes fortunes, bien évidemment, que là, retransmettre, on va dire, dans le pot commun, ça me semble essentiel dans notre société. Je voulais juste revenir aussi sur cette chanson qui me semblait bien choisie aussi, le Que je t'aime, parce que à la base, c'est vraiment ça, la transmission. C'est une question d'amour, et si ça se passe bien ou si ça se passe mal, c'est que la transmission, ça veut dire être aimé, et transmettre, ça veut dire aimer aussi, hein, c'est-à-dire reconnaître quelqu'un. Pour revenir à la question de la donation, de son vivant aussi, ça me semble aussi essentiel, parce que là on le fait en conscience. Il y a des personnes qui reçoivent des biens sans qu'on ait voulu leur donner quoi que ce soit du vivant des parents. Donc transmettre de son vivant, ça a vraiment un sens pour moi.
Est-ce que c'est, Pierre Lemay, vous êtes notaire, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui serait presque préférable de faire de la donation de son vivant?
C'est préférable si on peut le faire. Parce que, on l'a déjà dit, mais avec l'allongement de la durée de vie, le patrimoine que l'on va acquérir pendant son activité économique, il risque d'être consommé quand on va être dans un EHPAD pendant de nombreuses années où ça va coûter 3 000-4 000 euros par mois.
Donc, ça tombe bien, c'est une réaction d'auditeur là qu'on a qui dit le seul petit capital que la plupart des petites gens qui se transmettent servent souvent à payer les maisons de retraite.
Absolument. Et donc, vous pouvez, dans votre patrimoine, si il le permet, vous pouvez choisir des biens que vous allez transmettre de votre vivant parce que vous estimez que vous n'aurez pas besoin de les consommer dans votre quatrième âge. Donc c'est évident qu'il vaut mieux anticiper les choses et aider les générations au moment où elles en ont besoin, c'est-à-dire au moment où elles se constituent.
Et alors pour revenir à ce que disait Emmanuel Pierrat tout à l'heure, quand on parlait du candidat Emmanuel Macron qui, quand il était encore candidat, parlait de davantage taxé, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'en France, le transmettre un héritage est pénalisé ou pas?
Ah, oui. Les grosses fortunes, on va jusqu'à 45% en ligne directe, ce qui n'est quand même pas rien.
Mais à partir d'un montant assez important.
Absolument. Mais là, on parlait des grosses fortunes.
Mais globalement.
Globalement, je pense que tout ce qui peut faciliter la transmission, pourquoi n'y a-t-il pas autant de donations qu'on souhaiterait? Parce que il y a un impôt à payer sur les donations au moment où on le fait, et donc on attend le décès des gens pour que la transmission soit faite, que les biens soient vendus et qu'on puisse payer des droits. Je pense que là, il faut alléger à ce niveau-là la fiscalité, parce que le patrimoine est déjà taxé. Donc c'est une taxe complémentaire sur le patrimoine.
Mais on a l'impression quand même qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de la taxation. Je disais un dossier qui avait été réalisé par le magazine Challenge qui disait que le taux d'imposition effectif est autour de 5%, voire 3% pour les actifs transmis aux enfants et aux petits-enfants, alors que les Français l'évaluent en moyenne à 22%.
20%, c'est,
si je puis dire, le taux, les frais administratifs.
Bon. Il y a beaucoup de successions, on ne paye pas de droits de succession.
Avec les abattements.
Avec les abattements qui existent. Il y a 100 000 euros par parent et par enfant. Trois enfants qui vont être leurs parents n'auront pas de droits payés si la totalité est inférieure à 600 000 euros, par exemple. Bon, donc il y a heureusement beaucoup de gens qui sont exonérés.
Mais ça veut dire, n'oublions pas que la moyenne de l'héritage aujourd'hui, c'est autour, le montant moyen, c'est autour de 100 000 euros. Donc voilà. On voit bien qu'on est nettement en deçà de cet abattement.
Absolument. Mais les successions qui dépassent ces sommes-là, bien souvent, ce sont des successions aussi dans lesquelles on trouve des entreprises, on trouve une activité économique, on trouve donc des entreprises qu'il faut conserver. Il y a énormément d'entreprises qui ne survivent pas au décès de leur fondateur.
Il y a beaucoup d'entreprises, les montants sont quand même, de fiscalité, sont quand même nettement inférieurs.
Les montants sont inférieurs, mais enfin, il y a quand même des droits à payer qui ne sont pas négligeables sur les entreprises, oui, un certain montant.
Mais là Emmanuel encore, la loi a changé et on a évolué. Et on peut faire des pactes, notamment avec ses enfants, pour les faire monter dans sa propre entreprise. Bon, ça concerne un pourcentage très minoritaire de nos concitoyens. Mais enfin, ça s'est quand même amélioré, la transmission d'une entreprise. Moi, ce qui m'intéresse plutôt sur les taux d'imposition, c'est les taux d'imposition très rédhibitoires au profit d'un tiers. Vous voulez faire hériter quelqu'un qui a fait du bien autour de vous et qui, etc., qui n'est pas un membre de votre famille, vous êtes extrêmement taxé. Je parle sous votre contrôle, 60%. C'est beaucoup. Vous voulez laisser quelque chose, laisser un bien, laisser une petite somme d'argent, j'en sais rien, à quelqu'un qui vous a aidé, que vous avez trouvé, qui fait une œuvre importante et qui n'est pas constituée, on va dire, comme une ONG internationale, vous êtes tout de suite taxé. Et donc, effectivement, il y a un frein, là, il y a quelque chose peut-être à revoir dans cette façon, cet équilibre général entre ce que vos enfants reçoivent, les abattements, et puis le bien que vous pourriez faire autour de vous avec ce qui vous est possible de donner par ailleurs, la quotité disponible.
Donc ça veut dire que le système pourrait être revu, c'était quand même une question, la question initiale de l'émission, doit-on revoir? Selon vous, il faudrait revoir ce système au niveau de la taxation?
Oui, au niveau de la taxation, pour que ça soit plus égalitaire, ou que ça soit moins discriminant, entre guillemets. Là, on est quand même encore sur les liens familiaux. Alors la famille, je le disais tout à l'heure, a évolué. Le droit moderne prend en compte la famille moderne, et c'est heureux. Mais ne prend pas en compte pour l'instant des sentiments, de l'affection qu'on peut avoir pour des gens autour de soi qui n'ont pas démérité et qui ont juste le malheur de ne pas être vos enfants ou de ne pas être votre conjoint. Voilà. Et puis il faut aussi peut-être évoluer. Quand on est aujourd'hui paxé, par exemple, il faut faire un testament, parce que s'il n'y a pas de testament entre paxés, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, eh bien, votre paxé n'hérite de rien. Il a le droit de garder le logement, il n'est pas expulsé, mais il hérite de rien. Et là, il y a quelque chose qu'il faut peut-être revoir, parce que passer par la case mariage obligatoirement n'est peut-être pas que la solution que moralement ou philosophiquement tous les Français ont envie d'adopter. Aujourd'hui, on vit de façon en concubinage, on vit de tas d'autres façons. Peut-être que là, il faudrait prévoir renverser le principe. On hérite si on est paxé, si on est paxé avec quelqu'un, sauf des cas extrêmement particuliers qu'on pourrait lister.
Voilà, en tout cas, ça veut dire qu'en attendant, ce que vous nous dites, c'est qu'en attendant, il faut prévoir un testament.
Moi, je pense que de toute façon, dans tous les cas de figure, il faut prévoir un testament. Ne serait-ce que pour être sûr, je ne sais pas, que l'objet, le tableau qui vous est cher, le bout de papier, les bijoux, je ne sais rien, quelque chose que vous voulez donner, un signe que vous voulez faire auprès d'un tiers qui ne sont pas vos enfants, qui ne sont pas ceux qui vont être désignés par la loi si vous n'avez pas fait testament, pour être sûr qu'il touche quelque chose. Vous voulez donner au petit frère des pauvres, vous voulez donner à Tédé Carmonde, vous voulez donner, il faut le prévoir dans un testament. Et ce n'est pas uniquement donation, c'est formidable, à condition d'avoir de l'argent, il faut avoir recours, à des hommes de loi ou à des femmes de loi, aller chez des notaires, aller chez des avocats, faire des tas de choses, des montages. Moi, je pense que les choses peuvent être... les testaments, c'est simple à faire en France. Ça, c'est quelque chose de très important. On peut faire des testaments sous plein de formes, et notamment, on peut faire ce qu'on appelle un testament holographe, d'ailleurs, à condition qu'il soit rédigé de façon manuscrite, numéroté, et qu'il soit signé, daté, et on le met dans son tiroir, ou on le met dans un coffre, peu importe, et on doit pouvoir, là-dedans, il faut le faire, parce qu'on doit pouvoir désigner des gens de bien autour de soi, à qui on veut, justement, léguer ses biens pour encore faire du bien, si je puis me permettre un peu ce jeu de mots facile.
Alors, sur un testament, il faut aussi penser à le découvrir. Donc, vous avez intérêt à le confier à votre notaire, parce que la première personne qui va le découvrir, elle en fera ce
qu'elle voudra. Peut-être que le testament va lui déplaire, donc il a peu de chances de survie. Donc on a des fichiers, on a toute une organisation chez les notaires pour conserver les testaments.
Et si vous léguez à Emmaüs, il vaut mieux pas laisser, il faut même pas laisser dans le tiroir que vos enfants vont ouvrir en premier. Peut-être qu'ils auront une mauvaise pensée, moins altruiste que la vôtre.
D'accord. Voilà. Alors Christine Olivucci, quand on parle comme ça de pouvoir désigner certains héritiers sur une partie de son héritage, comment c'est ressenti par les héritiers, je dirais, naturels?
Quand c'est parlé, il me semble que ça peut, voilà, ça peut très bien se passer. C'est-à-dire quand les choses sont concertées, c'est essentiel dans tout ce qui est succession, testament, que ce soit parlé, qu'il y ait un rassemblement, que chacun puisse s'exprimer. Bon, la parole en amont des successions me semble essentielle pour que tout se passe bien. À partir de là, on peut très bien comprendre que. Voilà, une personne a été importante et que voilà, une partie ou ça passe souvent par des objets, en effet, des objets, des meubles, enfin quelque chose de symbolique soit donné à quelqu'un hors famille. Parce que les liens ne sont pas.
On reprend après ce morceau. L'héritage n'est pas toujours un cadeau d'ailleurs, mais le groupe perpignanais The Limanianas nous en a fait un avec The Gift. Un titre qui accueille Peter Rook, la légende de Joy Division. Dernière partie du débat de midi consacrée à l'héritage, à la nécessité ou pas d'en revoir les règles et même le principe. Excusez-moi Christine Olivucci, je vous ai coupé la parole avec la musique.
Hors famille.
Voilà, donc on était dans cette dernière question et c'est là-dessus que je voudrais vous entendre pour conclure. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que on doit pouvoir désigner ses héritiers et si oui, comment ça peut être ressenti par les uns et par les autres?
Il me semble essentiel quand même d'avoir une marge de manœuvre pour pouvoir désigner les personnes à qui on souhaite transmettre, sans bien évidemment léser complètement ses propres enfants. Voilà, par rapport aux personnes, comme je disais, à partir du moment où ça a été concerté, ça a pu être parlé, il y a par exemple des enfants qui ne sont pas vraiment adoptés, mais avec lesquels il y a un lien, on les inscrit souvent sur le testament. Des montages sont faits pour qu'ils puissent aussi hériter. Dans ce cas-là, généralement, les frères et sœurs, enfin la fratrie, comprend très bien. Quand c'est du hors famille, ça peut être hors famille dans le sens d'une personne avec laquelle on est lié. Il me semble aussi que les taxes là devraient être un peu moindres pour pouvoir léguer. Ça me semble aussi important que ça puisse être entendu.
Pierre Lemay, vous de votre côté, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on doit pouvoir revoir cette organisation de l'héritage pour favoriser peut-être ceux qui ne sont pas les héritiers naturels ?
Oui, il y a des évolutions à prévoir, c'est évident. Notamment, on disait tout à l'heure que pour faire hériter un beau enfant, il fallait l'adopter. Mais l'adoption, c'est quand même une procédure qui est simple. Et si la famille se désunit dans le futur, on va garder l'enfant adopté, on aura perdu le conjoint. Donc c'est quelquefois un petit peu compliqué. Donc, c'est vrai que recourir à un testament au profit des beaux-enfants qui auraient un avantage fiscal peut-être équivalent à celui des enfants naturels, ça peut être une solution.
Emmanuel Pierrin.
Il n'y a pas de révolution à faire, très sincèrement. Il y a des ajustements, sur les taux, la prise en compte, encore une fois, de l'évolution encore des familles modernes. C'est tout à l'heure, on est déjà très avancé, on a rattrapé beaucoup de retard ces dernières années, mais il reste encore des efforts, puis il reste aussi des incongruités. Professeur Didier Guével, qui doit m'écouter, professeur de droit à Paris 13, a fait une marotte du cas des incestes. Des cas d'enfants totalement nés de l'inceste qui, eux, sont privés d'un des deux d'une de leur succession, qui ne peuvent pas être reconnus par le père et la mère parce qu'ils sont liés par le sang. Voilà, il y a encore des tas de petites obsolescences comme ça, très morales, qui ne sont pas dans les intérêts des enfants ni dans l'intérêt de la société en général. Donc, il y a quelques pas de révolution, des modifications, des ajustements et puis des toutes petites scories comme ça à corriger. Mais globalement, on n'a pas besoin de passer au droit californien, si c'était ça aussi votre question.
Une des questions. Après, vous le disiez tout à l'heure, vous faisiez le même constat que moi, qu'on était aujourd'hui de plus en plus dans une France des héritiers et ça, pour vous, c'est quelque chose qui ne change pas.
Non, c'est quelque chose qui ne change pas, mais là-dessus, encore une fois, on peut jouer sur le taux d'imposition. Là, je regrette réellement l'absence de réactivité du candidat Macron qui effectivement avait promis d'aller sur ce terrain-là. Après, il ne faut peut-être pas nécessairement tout sabrer, il faut ajuster, trouver les bons pourcentages, de compenser d'abord des pertes de taxation de l'État, l'ISF, etc. Mais de l'autre côté, il y a effectivement des héritages, même taxés à 45%, qui sont non pas scandaleux, mais qui sont tellement importants que ça n'a pas de sens. Très sincèrement, faire descendre des milliards d'euros ou des centaines de millions d'euros sur la tête de quelqu'un qui ne pourra pas en dépenser même pas un dixième pendant le reste de ses jours, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose là à voir. Et si les gens ne sont pas capables de faire le bien différemment, ben peut-être que la loi ou le fisc peut se charger un tout petit peu de ramener un peu de raison et d'équilibre.
Merci à nos invités, donc Pierre Lemay, notaire à Pont-l'Évêque et rédacteur en chef de la revue Conseil des notaires. Merci Christine Ulivucci, vous êtes psychothérapeute et vous êtes auteur de Psychogénéalogie des lieux de vie qui est paru chez Payot. Merci d'ailleurs à France Bleu Hérault. Et puis merci beaucoup Emmanuel Pierrat, avocat, spécialiste de la propriété intellectuelle, avec un livre qui sort en octobre aux éditions de La Martinière qui s'appelle Dernière volonté. On se retrouve demain pour parler complètement d'autre chose. On parlera de Donald Trump. Est-ce que le trumpisme fait ressurgir l'anti-américanisme?